Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Près d'un millier de personnes disparaissent chaque année en France. Disparition volontaire ou involontaire. Ces affaires hantent le quotidien de nombreuses familles en attente de réponses. Bien évidemment, il y a les policiers, les gendarmes qui travaillent, mais de plus en plus de citoyens s'engagent bénévolement pour aider ces familles. L'ARPD, c'est l'Association Assistance et Recherche de Personnes Disparues, compte 650 bénévoles, des bénévoles qui enquêtent et qui parfois trouvent. Ils travaillent comme des détectives amateurs ou des professionnels. C'est le cas d'ailleurs de Pauline, qui sera notre invitée dans un instant. Elle a déjà résolu 9 affaires sur les 10 qu'elle a traitées. Mais d'abord, on va se plonger dans ces disparitions mystérieuses avec Elisa Tran.
Ils se soutiennent mutuellement. Tous ont un proche qui a disparu et sont en attente de nouvelles, parfois depuis des décennies. Selon les chiffres officiels, plus de 10 000 disparitions sont qualifiées d'inquiétantes chaque année en France. L'une des plus vieilles affaires de disparition non élucidée remonte à 1972. La famille Méchineau, parents et enfants, s'apprête à fêter Noël quand elle se volatilise en voiture. Éric Forêt, lui, n'est jamais rentré des courses. Son compagnon, Régis Pic, fait tout ce qui est en son pouvoir depuis 2016 pour le retrouver.
C'est horrible à vivre, de se dire est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, est-ce que... Là, on a l'impression de piétiner, on a beau nous dire, mais je vous assure que la justice travaille, on ne sait rien, nous tient au courant de rien.
Certains dossiers restent entre les mains de la justice, d'autres sont refermés ou dorment dans les tiroirs des magistrats. Une association œuvre à soutenir moralement les familles et à leur apporter des réponses. L'ARPD, Assistance et Recherche de Personnes Disparues, peut se vanter de résoudre environ 25% des dossiers qui lui sont confiés. Elle a parfois permis de réouvrir des informations judiciaires, comme ce fut le cas pour Marie-Thérèse Bonfanti, une mère de famille disparue en 1986 à Pontcharrat en Isère, alors qu'elle distribuait des journaux. Les éléments collectés par l'ARPD ont été transmis au parquet de Grenoble et ont permis l'arrestation du suspect 36 ans après les faits.
Des enquêteurs amateurs, mais qui aident ces familles qui attendent des réponses. C'est ce que vous faites, Pauline Charpie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enquêtrice bénévole donc pour l'ARPD, l'Association d'assistance et de recherche des personnes disparues. Ça fait 2 ans ?
Oui, c'est ça.
Vous allez nous raconter ce que vous faites et comment vous travaillez. Vous êtes détective par ailleurs, c'est ça ?
Oui, je suis enquêtrice privée généalogiste.
Intéressant, vous allez nous raconter ça aussi, évidemment. Philippe Zankevitch, bonjour, merci d'être avec nous. On vous connaît bien sur BFM TV, vous êtes vous aussi enquêteur bénévole et vous êtes ancien gendarme, c'est-à-dire que les compétences se réunissent. Pauline, on avait envie de vous recevoir parce que on se demandait comment, dans une vie, tout d'un coup, on se dit, j'ai envie. Alors vous, vous aviez déjà cette appétence de détective. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, je ne vais pas le faire que dans le cadre de mon travail de détective, je vais aller aider des familles, je vais aller chercher pour des gens qui ont perdu un proche.
Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser que on s'engage dans cette association parce que de près ou de loin on est concerné par ce type de disparition. Alors moi c'est pas mon cas, c'est vraiment parce que je trouve que c'est la continuité de mon métier, de ma passion et de permettre de mettre à profit mon expérience et mes compétences au service d'une cause et d'aider et assister les familles en fait dans une partie de leur quête en fait.
Oui, parce que vous pourriez le faire si on était très mercantile, vous pourriez le faire payer. En fait, vous êtes détective, vous pourriez très bien aller aider ces familles et faire payer. C'est pas le choix. Là, il y a une volonté d'aider.
Oui. Vraiment, ouais.
Parce qu'elles sont dans une souffrance particulière, ces familles.
Oui, c'est une souffrance légitime. Elles sont dans une quête. Parfois, c'est des disparitions volontaires. Donc, vraiment, il y a une souffrance hein, de pas savoir si la personne est en vie. Oui, on a besoin de les assister. Aujourd'hui, les enquêteurs professionnels, la police, ils font leur enquête, mais malheureusement, ils n'ont pas le temps d'assister et d'accompagner les familles. Donc, c'est vrai que nous, on est là pour enquêter, mais plus pour les assister dans cette quête.
C'est important ce que vous dites d'ailleurs. Il n'y a pas de rivalité. L'idée n'est pas de se faire la guerre avec la RPD d'un côté ou des enquêteurs professionnels de l'autre, les gendarmes, les policiers. Vous travaillez ensemble d'ailleurs, vous qui êtes ancien gendarme. Il arrive que, je dis ça en posant la question, mais j'ai lu que ça arrivait, que des enquêteurs de la RPD aillent voir les gendarmes et les policiers en disant « Tiens, j'ai telle info, ça pourrait vous aider ?»
Oui, parce que au départ, c'est la famille qui vient demander assistance à l'association. Et quand il y a une enquête de disparition inquiétante où la police ou gendarmerie est saisie, on va les voir déjà pour se présenter et dire voilà, pour ne pas faire de mauvaises situations, on informe que quand même on est saisi par la famille qui nous demande assistance. Il n'y a jamais de problème.
C'est ce que je veux dire, vous êtes bien accueillis.
Ah oui, parce que on est dans la même situation. Bon, je veux dire, ils savent qu'on n'est pas complémentaires, on n'arrive pas non plus en disant attendez, on arrive. Non, on travaille, on n'a pas les mêmes prérogatives, donc on fait attention et ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai toujours été bien accueilli, sauf dans une gendarmerie, mais ça c'est autre chose.
On va pas la citer.
Oui,
c'est
non,
ça
non. Mais c'est vrai. Mais
ah bon, si.
Oui, si vous voulez. Non, peu importe. Parce que là après, c'est un rapport d'humain. Je veux dire, quand on arrive, voilà, parce que il y a toujours des personnes qui veulent se revaloriser et puis vous n'êtes pas dans la même cour, etc. Mais non, ça s'est passé une fois, malheureusement. Mais voilà, ça se passe généralement très bien. On nous accueille très bien. Ils comprennent la situation.
En fait, ces familles, c'est des familles désemparées qui croient pas plus en la justice, les enquêteurs, parce que les dossiers traînent un peu. Parce que vous, madame, vous êtes plus dans un aspect psy avec eux, d'aide, d'écoute, ou plus quand même dans du côté technique. On va essayer de trouver des choses. On va vous situer où?
C'est vrai qu'il y a un peu des deux quand même, parce que quand on rentre dans la RPD, c'est pour assister, mais aussi pour enquêter. Donc on fait les deux, mais il y a une grosse part d'écoute pour les familles et d'assistance. Hein. Parfois, il y a des dossiers qui peuvent être bloqués. On a essayé toutes les pistes, mais la famille, elle a quand même besoin de nous, en fait, pour les épauler dans des démarches avec des avocats ou autres.
Et l'écoute et les jours et nuits, vous avez des gens qui vous appellent parfois la nuit, qui sont complètement paumés, qui des familles qui vous disent « je ne peux pas dormir, j'y arrive pas, pardon de vous déranger à 2h du matin », mais ça arrive ça ?
Oui, ça m'est arrivé, ouais. Pour une petite gamine qui était partie, ouais. Mais je veux dire, faut expliquer aussi que on est quand même à 100% avec la famille. Il y a un binôme, on est en contact permanent. Et j'explique à la famille, parce que des fois on vient nous dire « oui, c'est long, on n'a pas de renseignements, etc. » Donc j'explique quand même que malheureusement, compte tenu de l'événement qui se passe en brigade, bah oui, moi ça m'est arrivé d'arriver, de partir, et puis le patron nous dit, bah non, il y a un cambriolage là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à traiter. Tandis que nous, à la RPD, on se doit être près des familles, on les soutient, on les motive, et on leur fait conserver l'espoir, et on est quand même beaucoup plus disponible que les gendarmes ou la police.
Il y a un rôle d'assistance manifeste, hein, précieux pour ces familles, et puis il y a un rôle d'enquête, hein, Dominique le soulignait, c'est assistance et recherche. J'aimerais que vous nous racontiez, alors vous n'allez pas nous raconter en donnant des noms, bien sûr, mais comment vous faites? Une famille vient vous voir, elle vous dit, voilà, mon fils, ma fille, ma tante, ma sœur a disparu. J'ai plus de nouvelles. Du jour au lendemain, plus rien. Comment vous travaillez? Parce que vous n'avez pas les mêmes prérogatives que les policiers et les gendarmes.
Non. Chaque enquête est différente, mais globalement, quand on nous attribue un dossier, dans un premier temps, on va lire vraiment minutieusement toutes les informations que la famille nous a transmises par écrit.
Oui.
Et de bien voir les détails. Et c'est souvent là, d'ailleurs, qu'on va voir si c'est une disparition potentiellement volontaire ou non. Et après, ce qui est primordial, c'est de contacter la famille. Parce que souvent, ils disent pas forcément l'ensemble des détails dans le dossier écrit. Donc, on apprend toujours quelque chose quand on communique avec eux. Il y a forcément un contexte, un facteur qui a déclenché la disparition. Donc, c'est important d'avoir tous les éléments en notre possession. Et après, on va commencer à enquêter. Pour ma part, moi, je combine les enquêtes numériques et l'enquête de terrain.
Ça se passe comment?
Et du coup, l'enquête numérique, alors ce qu'on appelle aujourd'hui de l'OSINT, c'est de la recherche en source ouverte. C'est des informations qu'on peut trouver en ligne tous, hein, il faut juste savoir chercher correctement. Ça va être sur les réseaux sociaux, sur des sites de sociétés. Après, c'est du regroupement d'informations en fouinant un peu. Hein, voilà, et du coup, c'est comme ça que qu'on fait les recherches.
On associe des noms, des photos, on remonte des lieux. C'est du petit poussé, entre guillemets.
C'est vraiment du regroupement d'informations avec différents outils. On va faire de la recherche plus poussée avec des opérateurs... des moteurs de recherche différents. On va pas forcément utiliser que Google qui ressort principalement les mêmes informations. Donc, il faut avoir un spectre plus large avec des moteurs de recherche différents comme Google, Yandex, Yahoo, etc. Après, il y a la recherche d'images inversées aussi qui peut permettre, moi, dans un de mes dossiers, par exemple, c'est comme ça que j'ai retrouvé assez facilement la trace d'une disparue. Parce que en fouinant justement sur les réseaux, j'avais potentiellement trouvé une piste et pour confirmer le lieu, j'ai fait de la recherche d'images inversées.
Qu'est-ce que c'est, une image inversée?
En fait, c'est dans les moteurs de recherche type Google, Yahoo, il y a un moyen de faire de la recherche inversée, c'est-à-dire qu'on met l'image. Et par exemple, moi, là, en l'occurrence, je cherchais où est-ce que la photo avait été prise. J'ai ciblé l'arrière-plan du village et en mettant dans le moteur de recherche d'image, ça m'a donné le lieu, en fait. Ça a repris toutes les photos où il y avait les mêmes images. Et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé le lieu où la personne était. Ça a confirmé.
C'est assez fascinant. Est-ce que vous avez, Philippe, vous, des dossiers qui vous ont particulièrement marqué ou vous avez trouvé des éléments déterminants?
Tous les dossiers sont différents, donc ils marquent tous un peu, plus ou moins. Bon, pour ma part, j'ai retrouvé une personne serbe qui était donc devenue SDF depuis 2017 dans Paris et qui, malheureusement, à la demande de sa famille, c'est arrivé, il fallait le retrouver. Donc, ça m'a pris quand même un bon moment, ça m'a pris quand même 5 bons mois. Et donc j'ai réussi en mettant des jalons à droite à gauche et en provoquant la chance de retrouver ce fameux Zoran. Et donc on peut parler un peu aussi des disparus des ressortissants français qui disparaissent aussi, lui c'était le cas. Donc j'ai réussi par le biais de l'ambassade de Serbie avec la directrice et secrétaire générale d'obtenir un laissez-passer consulaire et j'ai emmené Zoran et son ami à Roissy et il a retrouvé sa famille et bon c'était un beau happy end comme on dit.
C'est happy end. Ouais. Et comment ça se passe quand vous pressentez ou que vous comprenez que c'est une affaire criminelle?
Là, c'est différent parce que forcément c'est déjà bien lancé. On suppose que c'est une affaire criminelle. Déjà, on oriente la famille en disant « Attendez, il y a quand même quelque chose, il y a des choses qui sont pas, qui vont un petit peu clocher, comme on dit. » Donc là, on leur dit « Faut aller quand même voir, c'est une disparition inquiétante. » Parce que le législateur, on a arrêté les RIF, les recherches d'intérêt des familles, qui existaient depuis 1947, en gros, après la guerre, et ça s'est terminé en 2013. De là, le législateur a décidé de faire des disparitions volontaires, des disparitions inquiétantes. Donc, quand on a des suspicions, qu'on dit, attendez, il y a quelque chose qui est quand même bizarre, là, on les oriente quand même, on leur dit, il faut quand même aller voir la police ou la gendarmerie.
Madame Charpie, le rapport avec la généalogie, en généalogie, on cherche des gens dans les affaires d'héritage, c'est ça? Savoir s'il y a encore un vivant, s'il y a encore un héritier qu'on aurait oublié, c'est ça? C'est un peu le même...
Oui, c'est ça, tout à fait. Alors moi, j'interviens aussi parce qu'on pense souvent aux héritages, effectivement. Après, il y a aussi le besoin aussi parfois de retrouver des ayants droit d'un bien immobilier, d'une parcelle, dans le cas, d'un projet immobilier avec un promoteur ou des communes. Il y a beaucoup de communes. Moi, je travaille principalement avec l'outre-mer où il y a des soucis d'indivision. Donc forcément, il faut retrouver tous les ayants droit d'une parcelle. Donc moi, je suis là pour faire ces recherches-là.
Ce qui vous a donné ce goût de la recherche et donc était précieux pour les familles. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes. Passionnant de vous recevoir ce dimanche.